La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0800 92 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Et voici la combinaison gagnante du Quintet Plus qui vient de se courir sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Premier le 7, deuxième l'As, troisième le 13, quatrième le 15 et cinquième le 4. Il est 14h03 sur France Inter. Tout de suite, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, dans le cadre de nos émissions spéciales sur l'élargissement de l'Union européenne, trois pays qui vont y entrer le 1er mai prochain, les pays baltes.
Nous pouvons subir tous les martyrs, nous pouvons souffrir plus atrocement, mais Dieu nous soulèvera dans ses mains quand notre heure sonnera. Écrit par un poète letton dans un camp de concentration en 1942.
D'histoire. Les Estoniens, les Lettons et les Lituaniens sont si peu nombreux et leurs pays sont si petits qu'ils font rarement la une de l'actualité. Si bien que ces trois peuples baltes qui entreront dans quelques jours dans l'Union européenne font partie de ceux dont on connaît le moins bien l'histoire. D'autant que pendant des siècles, ils n'ont jamais été indépendants. Au fond de la Baltique, constamment menacés et envahis par leurs puissants voisins, allemands, russes, suédois ou polonais, passionnément attachés à leur tradition et à leur identité, les peuples baltes ont su résister à toutes les occupations, depuis celle des chevaliers teutoniques au Moyen-Âge, jusqu'à leur annexion à l'immense empire soviétique, dont les Lituaniens étaient les premiers à se libérer il y a 14 ans. France Inter, Simon Tivol, le 12 mars 1990.
5 ans, jour pour jour, après son arrivée au pouvoir, Mikhail Gorbatchev est confronté à l'amorce d'un processus d'éclatement de l'URSS. La Lituanie, la plus grande des trois républiques baltes, qui compte presque 4 millions d'habitants, est en état de sécession légale. Elle n'est plus socialiste, elle a un drapeau jaune, vert et rouge frappé d'un chevalier. Hier, le Parlement lituanien a proclamé la restauration de ses droits souverains à l'indépendance. Avec pudeur, les députés ont voté la restitution de sa souveraineté à la République, souveraineté perdue en 1940 par l'intervention d'une force étrangère.
Castro, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien les pays baltes sur lesquels vous avez écrit plusieurs livres et vous êtes enseignant à l'université de Vilnius en Lituanie, si bien que vous avez été, je crois, le témoin de l'indépendance de ce pays qui, en 1990, était la première république soviétique, on vient de l'entendre, à se détacher de l'URSS, suivi bientôt par les deux autres pays baltes. Alors, on connaît très mal l'histoire de ces trois pays, et pour une fois, on parlait d'eux à cette occasion, sans qu'on connaisse justement bien leur histoire. Alors, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, avec vous, aujourd'hui et demain, on rappelle justement les grands moments de cette histoire, en commençant par les origines assez obscures de ces pays. Au fond, ils n'apparaissent vraiment dans l'histoire qu'assez tard, je crois, au XIe siècle, tout simplement parce que ces pays et ces peuples ignoraient l'écriture.
Oui, c'est exact. Ils sont connus par une chronique allemande du XIIe siècle. Mais effectivement, ils étaient là depuis bien longtemps. Les Estoniens finno-ougriens sont arrivés sur leur territoire actuel, en face, au sud du golfe de Finlande, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Et les Baltes, c'est-à-dire les Lettons et les Lituaniens, sont eux-mêmes sur les rives de la Baltique, de part et d'autre de la Daugava, depuis plusieurs milliers d'années également. Avant notre ère. Mais pendant des siècles et même des millénaires, ils ont vécu une vie traditionnelle très loin des regards du monde occidental.
Vous dites que les premiers, les Estoniens, c'est ça qui les distingue, venaient du nord, plutôt de la Finlande, ils ont finno-ougriens, comme vous le disiez, les autres plutôt du sud, les Lettons et les Lituaniens.
Alors les Estoniens viennent, comme tous les finno-ougriens, des confins de l'Oural. Il y a deux rameaux, ceux qui ont donné les Finnois, les Caréliens, les Estoniens, et l'autre rameau, celui qui a été vers le sud, qui a donné les Hongrois, les Sicules, etc. Et puis tous ceux qui sont restés sur l'Oural à l'heure actuelle. Il y a toute une série de peuples finno-ougriens qui sont restés de part et d'autre de l'Oural. Quant au peuple indo-européen, rameau indo-européen qui va donner les Baltes, ils viennent effectivement du sud, que ça soit de proximité de la mer Caspienne ou de l'Anatolie, c'est pas encore très clair.
Alors, ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce que la langue est-ce que les langues se ressemblent?
C'est alors, les Estoniens parlent donc une langue finno-ougrienne proche du finnois, très éloigné du hongrois, mais proche du finnois. Les Lettons et les Lituaniens sont les deux derniers peuples à parler des langues baltes. Il y en avait autrefois d'autres, comme les vieux Prussiens, dont la langue a disparu au XVIIIe siècle. Et ces langues baltes sont de la famille indo-européenne, c'était extrêmement différente de la famille ouralo-altaïque ou finno-ougrienne plutôt, auxquelles appartiennent les langues estoniennes et finnoises.
Et puis alors, ces peuples ont aussi en commun d'être restés pendant très longtemps des peuples païens, et c'est la principale raison pour laquelle, à partir du XIe siècle, ils subissent leur première invasion, celle de moines soldats allemands, les chevaliers porte-glaive et les chevaliers teutoniques, auxquels le pape et l'empereur avaient demandé d'évangéliser les peuples païens de la Baltique.
Il a été donné à l'ordre des chevaliers de la très sainte Marie, Mère du Christ, la Lituanie, la Prusse, la Russie, ainsi que toutes les terres de l'Est où des schismatiques vivent dans l'erreur, afin que l'ordre porte la foi et la justice dans tous les pays encore impies.
La vie est dure pour nous, messire. Les chevaliers du Saint-Ordre ont grand besoin d'argent pour faire la guerre en Samogitie. Et une fois cette guerre terminée, il y en aura une autre. Il nous est défendu de pêcher. De chasser aussi. Pour faire moudre son grain, on est obligé de payer d'énormes taxes. Et si nous écrasons le grain chez nous, leur vengeance est terrible.
Et c'était un extrait d'un film polonais d'Alexander Forle, Les Chevaliers Teutoniques, donc qui ont en fait occupé deux des trois pays baltes pendant assez longtemps. Ils ont laissé leur marque, ils étaient là pour les évangéliser, c'était les Estoniens et les Lettons.
Oui, en fait, ils sont appelés les chevaliers de l'ordre de la Vierge, qu'on a appelés les Teutoniques, qui ont dû quitter la Terre Sainte à la suite de l'échec de la colonisation là-bas, arrivent aux environs 1230 en Prusse, qui est devenue ultérieurement la Prusse orientale, pour évangéliser les vieux Prussiens, les beaux Russes. Ils y établissent une forteresse, et à partir de là, effectivement, par mer, ils vont coloniser plus au nord, progressivement, la Courlande et la Livonie. Et ils vont monter jusqu'au golfe de Finlande, en Estonie. Ils vont créer progressivement une série de places fortes, d'évêchés, qui, au cours du temps, deviendra ce qu'on peut appeler un véritable état de l'ordre. Mais en faisant cette montée vers le nord, ils contournent le Grand-Duché de Lituanie, qui offre une résistance à leur pénétration.
Oui, là, effectivement, les destins des trois peuples se séparent un petit peu, parce que les Lituaniens, vous le disiez, Yves Placereau, finalement, n'ont pas été envahis, occupés par ces chevaliers. Ils sont même, d'ailleurs, les derniers Européens à avoir été christianisés, les Lituaniens.
Oui, les Lituaniens sont officiellement seulement christianisés en 1387, c'est-à-dire qu'il y a bien longtemps que les Teutoniques et l'ordre de Livonie qui va lui succéder sont installés dans les terres du Nord. Pourquoi les Lituaniens résistent-ils? Ils résistent parce que depuis 1253, ils ont leur propre État, unifié par un certain Mindaugas, et cet État s'organise assez vite pour protéger ses frontières, s'organise une armée et se mettre en position de défense, ce qui n'a pas été le cas des Courlandais ou des autres peuples du Nord, pris pratiquement par surprise.
Et en s'associant avec la Pologne, hein, contre les Teutoniques, c'est même d'ailleurs un roi lituanien qui s'appelait Jagellon, qui va devenir roi de Pologne, et sa dynastie va régner sur la Pologne pendant deux siècles, et à eux deux, ces pays vont devenir un véritable empire.
Oui, la Lituanie était déjà un grand duché qui a atteint son apogée en 1430, mais qui est très vulnérabilisé par les incursions nombreuses des Teutoniques d'une part et des Slaves d'autre part. Face à cette difficulté, ayant choisi le christianisme occidental par la christianisation polonaise, eh bien il s'allie en 1569 finalement de très près par l'union de Lublin avec le royaume de Pologne, ce qui va donner effectivement une grande république polono-lituanienne nobiliaire qui sera l'un des principaux états de l'Europe de cette époque.
C'est ce qui explique d'ailleurs Yves Plastreau l'attachement des Lituaniens au catholicisme.
Oui, le catholicisme, après avoir été refusé pendant très longtemps par les Lituaniens, va finir par devenir pour eux une religion identitaire. Un peu comme les Polonais, mais peut-être plus que par les Polonais, parce que les Lituaniens sont confrontés au nord aux luthériens et à l'est aux orthodoxes. Et par conséquent, ils sont sur la frontière entre des mondes religieux différents.
En tout cas, les Polonais et les Lituaniens vont infliger aux Teutoniques une défaite dont ils ne se relèveront pas, une des plus grandes batailles du Moyen-Âge remportée par le roi de Pologne, Jagellon, avec le concours des Lituaniens, la bataille de Grunwald, le 15 juillet 1410.
Dans un instant, ce sera l'aurore. La bataille commencera. Veuillez répéter encore une fois mes ordres. Toi, prince Witold. L'armée lituanienne se portera à droite vers Tvorsk. Et toi, mon frère Lingven?
Les escadrons de Smolensk en soutien de l'aile polonaise. Ceux de Mstislav avec les détachements lituaniens.
Personne n'aura vu une aussi grande bataille au cours de ce siècle.
Nous ignorons le nombre des soldats teutoniques.
Sous leurs étendards, ils sont une centaine de mille. Jamais il n'y en eut autant.
Quel est le nom de ce village que l'on voit au loin derrière l'armée teutonique?
Grunwald.
Courrier! Porte le message au prince Witold, à Tvelo et Dina. Que Dieu soit avec vous. Lituanie!
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les pays baltes.
Et c'était un autre extrait donc du film d'Alexander Folle, Les Chevaliers Teutoniques, qui perd une des plus grandes batailles. On en parle peu, on l'a un peu oublié en France notamment, mais cette bataille a été considérable en 1410, Grunwald. C'est un peu la fin de l'expansion des Teutoniques.
Ah oui, c'est le début de la fin pour eux. Ouais. Effectivement, un coup d'arrêt est mis à leur superbe et à leur expansion, et à partir de ce moment-là, ils vont gérer plus que conquérir. Ils sont coincés entre la consolidation et l'accroissement de la Moscovie à l'est, l'État lituanien qui se développe pas mal du tout, et ils sont plutôt sur la défensive, c'est clair.
Y compris dans le nord où ils étaient présents, c'est-à-dire en Estonie, en Lettonie, qu'on appelait la Livonie à l'époque, et qui vont passer sous un autre empire, sous l'autorité d'un autre royaume, qui est la Suède. Hein, la Suède qui s'installe à partir, je crois, du XVIIe siècle, Yves Plastreau.
Tout à fait. À l'époque, la Suède est un grand royaume conquérant, et effectivement, il conquiert la région et s'installe et font régner dans les provinces de Livonie, Courlande et Estonie la paix suédoise, qui est un ordre qui a laissé dans les mémoires le souvenir du bon temps suédois, parce que il n'y avait pas d'arbitraire. On crée une université à Tartu, on allège les corvées et les obligations des serfs par rapport aux seigneurs locaux. Par conséquent, c'est une période considérée comme heureuse pour les peuples du Nord.
Et qui va se terminer au XVIIIe siècle avec la victoire de Pierre le Grand sur les Suédois. Et alors là arrive un troisième occupant. Alors là, celui-là, ça va durer beaucoup plus longtemps. C'est la Russie. C'est la Russie de Pierre le Grand qui cherchait à ouvrir son pays vers l'Occident, sur les ports de la Baltique, et qui justement s'intéresse aux trois pays baltes. En 1721, c'est l'Estonie et la Lettonie qui deviennent russes, et puis à la fin du XVIIIe siècle, c'est au tour de la Lituanie. Et là, l'occupation, elle est beaucoup plus pesante, Yves Plastreau, une fois que les Russes arrivent au XVIIIe siècle.
Alors, en ce qui concerne les territoires actuellement estoniens et lettons, à partir effectivement de la paix de Neustadt, les Russes occupent politiquement le terrain, mais laissent la gestion de la vie quotidienne au sein des aristocraties allemandes. Et par conséquent, ça ne change pas grand-chose pour les populations autochtones.
Elles vont même, pour certaines d'entre elles, je pense aux Lettons, profiter de la présence russe. Je crois que Riga, qui est le grand port de Lettonie actuellement, était une des plus grandes villes d'Europe et un port très actif.
Certes, mais c'était une ville allemande.
Oui.
Jusqu'à la Renaissance nationale lettonne, à la fin du 19e siècle, c'était une ville allemande. Alors ça marche effectivement très fort. Riga devient l'une des capitales industrielles de la Russie et l'un des plus grands ports, mais le tout pratiquement en Allemagne. Et c'est vrai pour Libau aussi, c'est vrai pour les principales villes de Lettonie sont des villes allemandes à cette époque-là. Du moins, ils ne représentent pas la majorité, mais ils représentent la couche supérieure, comme on dit, et c'est eux qui tiennent tout en main. Ceci étant, vous avez parlé également de l'annexion de la Lituanie, ou de ce qui reste de la Lituanie, parce que c'est le quatrième partage de la Pologne en 1795, Pologne-Lituanie. Là, ça sera tout autre chose. À partir de 1795, l'occupation de la Lituanie par la Russie va être extrêmement dure.
Et on comprend les révoltes des Lituaniens qui ne supportent pas la présence russe, qui se révoltent à plusieurs reprises, et qui en 1812 vont même s'enrôler dans la Grande Armée quand Napoléon attaque la Russie. Un épisode peu connu de l'histoire du Premier Empire, raconté dans un film d'Andrzej Wajda, Pantadeusz.
Co myślisz, Macieju? Jeśli z Bonapartem.
Qu'en dis-tu, Mathias? Bonaparte attaque la Russie. L'heure est grave. Ce héros a des armées sans nombre. Eh bien, Mathias, notre petit roi, qu'en penses-tu? D'où tenez-vous cela? Que voulez-vous? La guerre. Contre le russe, nous battre. Sus aux moscovites. C'est bien. Puisque l'empereur des Français vient d'un côté et le tsar russe de l'autre, c'est donc la guerre.
Tsar ruski więc wojna. Vivat hrabia!
Vive le comte. Vivre et mourir avec lui.
Et oui, Yves Plastro, dans la grande armée de Napoléon en 1812, il y avait aussi des Lituaniens, on l'oublie.
Oui, il y avait peut-être en majorité des étrangers. D'ailleurs, les restes qu'on a retrouvés ces dernières années en Lituanie étaient des restes de soldats saxons, polonais, etc. Effectivement, il y avait des Lituaniens aussi qui se sont engagés parce que Napoléon avait fait laisser miroiter la recréation à l'Induché de Lituanie. Et par conséquent, pour eux, c'était qu'une chance de reconquérir l'indépendance qui n'avait pas été perdue depuis longtemps, puisque ça faisait 25 ans. Par conséquent, effectivement, beaucoup de Lituaniens y ont cru, et malgré la manière épouvantable dont ça s'est terminé à l'hiver 1912, puisque à la retraite de Napoléon,
ils étaient sur la Bérézina aussi.
Absolument.
Les Lituaniens, oui.
Malgré cette déroute épouvantable, eh bien les Lituaniens ont gardé un souvenir plutôt favorable de Napoléon, qui a introduit des réformes dont certaines ont laissé des traces.
On peut le comprendre, parce qu'en revanche, les Russes sont extrêmement durs avec eux, d'ailleurs avec l'ensemble des peuples baltes. Je crois qu'il y a une politique de russification intensive. On attaque le catholicisme lituanien, on s'en prend aussi à la langue des pays baltes, Yves Plastro.
Oui, alors, c'est surtout vrai pour la Lituanie, parce qu'encore une fois, en ce qui concerne les provinces du Nord, l'allemand fait écran entre Saint-Pétersbourg et les populations. En Lituanie, en revanche, il n'y a pas d'autorité politique intermédiaire, il n'y a qu'une autorité religieuse et culturelle, c'est la Polonité ou la Pologne, mais elle est elle-même asservie. Par conséquent, c'est surtout la Lituanie qui prend de plein fouet l'autorité russe, 1830, 1863, les révolutions, à partir de 1864, le lituanien est complètement interdit partout, le pays perd même son nom. C'était une période effrayante. On ne peut plus publier de livres en langue lituanienne. Et puis ça devient encore pire après la révolution, enfin avec la révolution de 1905. Donc c'est un long martyrologue du peuple lituanien pendant cette époque.
Et qui consolide au fond le sentiment d'appartenance nationale, l'attachement des Lituaniens en particulier, des pays baltes en général à leur tradition, un sentiment national dans des pays qui fascinent les Européens depuis longtemps. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
À la première mention des peuples baltes, vous allez rire, on la doit à l'historien romain Tacite. Eh oui, sur les côtes orientales de la mer Suévique, dit-il, on trouve les nations des Aestiens. Leur langue se rapproche de celle des Bretons, la marque de leur religion, ce sont des figures de sangliers qu'ils portent à la main. Ils connaissent peu le fer, leurs armes sont des bâtons de bois, ils cultivent du froment et d'autres grains. Ils vont même fouiller jusque dans la mer pour y chercher l'ambre qui ne se trouve qu'en leur pays. Alors, au XIXe siècle, les peuples baltes sont toujours en majorité des paysans, non plus païens, mais chrétiens pour la plupart, soumis à l'autorité des tsars. Ce qui ne les empêche pas de continuer à faire vivre leurs coutumes et surtout leur langue, notamment par le chant.
Depuis les temps les plus reculés, les Estoniens ont embelli leur vie, du berceau jusqu'au tombeau, par des chants, constate un voyageur à la fin du 19e. On chante dans la joie, dans la tristesse. Si les bras sont occupés en travaillant ou en marchant, ils continuent à chanter. Or, les élites baltes, elles, se sont ralliées aux cultures dominantes, allemandes, polonaises ou russes, mais elles restent attachées à leurs racines. Le grand poète de langue polonaise, Adam Mickiewicz, par exemple, est très fier de ses origines lituaniennes. « Ô Lituanie, ma patrie, dit-il, celui qui t'a perdu sait combien il doit te chérir. » Autre poète d'origine lituanienne, mais de langue française, lui, Oscar Vladislas Miloš, qui parle avec nostalgie de son pays. « Une contrée étrange, vaporeuse, voilée, murmurante, dit-il, un pays où toutes choses ont la couleur éteinte du souvenir. » Mais ces pays baltes sont aussi pleins de vie, hein, d'activité, de commerce. Au début du 20e, un Français de passage à Riga compare ce port à un souk d'Afrique du Nord. « Tout un peuple bruyant, dit-il, femmes aux fichus multicolores, russes aux barbes crasseuses, juifs, y échangent des fromages et des poissons salés, les provisions des navires et 1000 bibelots. » À Vilnius, aussi la capitale lituanienne, vivent plusieurs communautés, notamment des juifs. À la fin du 19e, elle est même une capitale de la culture yiddish. Cette époque de prospérité économique et de cohabitation à peu près heureuse, le poète juif Avrom Sutskever s'en souviendra en 1944 dans les pires heures du ghetto. « Je ne veux pas te pleurer, ville de mon champ. Jamais à tes profanateurs tu ne pourras appartenir. Et si dans ma ville ne reste plus de juifs, leurs âmes habiteront ces sinueuses ruelles. Moi qui ai grandi à l'ombre de ta splendeur, je te porte à jamais comme un rouleau sacré. »
Très important, Yves Plastreau, la communauté juive, on n'en a pas parlé, mais dans l'ensemble des pays baltes, et notamment à Vilnius, je crois que Napoléon l'appelait la Jérusalem du Nord.
Oui, parce que c'était une ville qui avait une considérable population juive et qui comportait près d'une centaine de synagogues et qui était un foyer culturel juif absolument inégalé. Et c'est vrai que l'histoire de judaïsme ashkénaze atteint sans doute son apogée dans l'ancien domaine du Grand-Duché de Lituanie. C'est une histoire absolument considérable et qui a influencé de façon majeure l'Occident depuis maintenant un bon siècle.
Et dans des pays donc qui n'ont pratiquement jamais connu l'indépendance jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors en 1917, vaincu par les Allemands et surtout à cause de la révolution russe, les Russes abandonnent aux Allemands les pays baltes. Et puis lorsque les Allemands perdent la guerre en 1918, comme il n'est pas question de leur laisser les pays baltes, ni de les donner en fait, ni de les rendre à la Russie, à ce moment-là, ils deviennent indépendants. En fait, l'Occident souhaite la création des pays baltes parce qu'ils font partie du cordon sanitaire à établir contre la Russie soviétique, Yves Plastreau.
Oui, avec certaines réserves néanmoins, il ne faut pas oublier qu'ils ont dû, pour acquérir leur indépendance, se livrer une guerre de libération nationale extrêmement dure contre toutes sortes d'ennemis, notamment les Russes blancs et les bolcheviks. Il ne faut pas oublier non plus que la France était assez hostile à la République de Lituanie pendant des années après son indépendance par polonophilie. Ceci étant, c'est vrai qu'ils ont fait partie du cordon sanitaire entre l'Union soviétique et l'Occident pendant tout l'entre-deux-guerres, c'est exact.
Et c'est comme ça qu'ils deviennent donc indépendants au lendemain de la Première Guerre mondiale, indépendants, libres, mais dans des États qui ne sont pas, qui rapidement ont cessé d'être des démocraties. Certains des trois États baltes avaient même des régimes qui étaient assez proches du fascisme italien entre les deux guerres.
Ils partent avec des régimes trop démocratiques, je dirais, pour l'état des sociétés, c'est-à-dire des systèmes parlementaires trop libéraux. Et effectivement, entre 28 et 34, ils tournent tour à tour à des régimes autoritaires que j'appellerais plutôt de type corporatiste à la Saint-Lazare, pour prendre un exemple qui parle en Occident. Ce n'est pas des régimes totalitaires, il y a peu de prisonniers politiques, et encore, il ne reste pas longtemps, et il n'y a pas d'antisémitisme d'État, il y a simplement un paternalisme évident et une sorte de valorisation de l'ethnie nationale qui est effectivement un peu bizarre de nos jours. Mais ce n'est pas, il ne faut pas imaginer ça c'est même pas comme l'Italie fasciste, en ce sens qu'il n'y a pas de glorification de l'État, il y a simplement une sorte d'hypervalorisation du peuple et un autoritarisme un peu policier. Il faut dire aussi qu'il se méfie énormément de l'Union soviétique, qui est très active dans cette région.
Oui, ça on le verra effectivement, mais ces régimes, en quoi consistaient-ils? Puisque bon, ils sont indépendants, trois États indépendants, hein, c'est nouveau ça, l'Estonie au nord, la Lettonie au centre, la Lituanie au sud. C'était de quelle nature étaient ces régimes autoritaires?
Dans les trois cas, les présidents de la République ont instauré un pouvoir autoritaire face à ce qu'ils considéraient comme la pagaille. Et la pagaille, elle était créée par l'agitation des communistes, l'agitation des minorités et l'instabilité gouvernementale. Et face à cette situation qui tendait à ruiner l'économie, eh bien les trois présidents, Smetona, Petz et Ulmanis, ont décidé de dire « ça suffit, j'arrête le jeu et j'instaure un pouvoir autoritaire temporaire ». Qui d'ailleurs était effectivement plutôt temporaire, mais qui était quand même assez lourd.
Quels étaient leurs rapports avec justement l'Allemagne nazie qui est en train de se développer à ce moment-là, et dont ils peuvent évidemment avoir des raisons d'avoir peur?
Les pays, l'Estonie et la Lettonie n'ont jamais aimé beaucoup les Allemands. Ils ont souffert des Allemands pendant 6 siècles. Par conséquent, ils n'avaient pas beaucoup de tendresse pour l'Allemagne nazie. Les Lituaniens qui avaient été délivrés ou libérés à l'issue de la Première Guerre mondiale avec l'aide allemande sont moins hostiles au début, jusqu'à ce qu'ils comprennent de quoi ils retournent avec le régime nazi. Ils sont moins anti-allemands.
En tout cas, il y a une épreuve bien pire qui va les attendre avec la Deuxième Guerre mondiale, qui va faire passer les Pays-Baltes sous occupation allemande avant leur annexion pendant plus de 50 ans par l'URSS. Nous en parlerons demain avec vous, Yves Placereau. Pour en savoir plus sur les Pays-Baltes, je recommande la lecture de deux de vos livres, Les États Baltiques, les sociétés gigognes, publié récemment aux éditions Armeline, et Les États Baltes, publié chez Montchrétien. À lire également Estonien, Letton, Lituanien, Histoire et Destin de François de Labriole et Suzanne Champenois, publié chez Armeline, un livre qui sortira en librairie le 30 avril. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les Chevaliers Teutoniques, un film polonais d'Alexander Ford, et Pantadeusz, quand Napoléon traversait le Niemen, d'Andrzej Wajda. Je vous signale également que France 5 diffuse actuellement, le mardi et le samedi, une série documentaire intitulée L'Europe de demain, consacrée aux 10 futurs pays de l'Union européenne, 10 futurs nouveaux pays de l'Union européenne. Vous pouvez voir notamment ce samedi un documentaire sur Malte à 14h35, Malte dont nous parlerons quant à nous mardi prochain dans 2000 ans d'histoire. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Benjamin de la Gâtinais, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Gilles Davidas.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain donc dans notre émission, la suite de l'histoire des Pays-Baltes, de l'Empire soviétique à l'Union européenne, mais tout de suite à 14h30 très précise sur France Inter, aussi émouvante qu'un coucher de soleil sur la Baltique.